Bon, ben, bonjour tout le monde. Ça fait toujours un grand plaisir d'apporter la parole de Dieu, partager avec vous qu'est-ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et si ce matin je vous dis le mot amour, juste ce mot-là, amour, qu'est-ce qui vient en premier dans votre tête, dans notre tête? Supposément, si vous êtes une jeune fille célibataire, peut-être vous pensez à l'amour avec un grand A, le prince charmant. Si vous êtes une mère de famille, peut-être vous pensez à l'amour pour votre une jeune mère, pour votre enfant, votre mari. Et l'amour peut signifier différentes choses. Si je dis j'aime mon épouse, bon, c'est l'affection que j'ai pour elle, c'est l'attirance que j'ai pour elle, c'est le fait que je désire son bonheur. Si je dis que j'aime mon frère dans la foi, donc là je ne parlerai pas d'attirance, c'est plutôt que je suis bien avec lui, je désire son bien. Si j'aime mon travail, donc là, c'est pas de l'affection comme telle, c'est que, bon, j'aime ce que je fais. Si j'aime le sport, donc si j'aime le sport, c'est parce que ça me procure du plaisir, c'est un loisir, ça me donne la détente. J'aime le spaghetti. On voit que c'est plus la même affaire, hein? Donc, le mot « aime » ou « amour » est employé à plein de choses. Dans le grec, on a déjà vu qu'il y avait comme quatre mots pour « amour ». C'était plus facile dans le grec de savoir ce qu'on parlait, l'amour agapé, philéo, etc., là, eros. Mais en français, il y a seulement un mot. Même en anglais, c'est bon, il y a deux mots, qui est le mot love et like, mais en français, on a un mot. Et la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et quand on entend ça, ça veut dire quoi? On va lire un texte qui nous parle de l'amour de Dieu, et c'est justement le thème ce matin, notre amour envers Dieu. Et notre frère Paul Grette a parlé la semaine passée l'amour envers Dieu dans le cadre d'un appel au réveil. Et moi, je parle d'un amour envers Dieu. On va regarder des preuves ce matin qui vont nous démontrer si on aime Dieu ou pas. Regardons le texte dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. Donc, première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On continue au chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui a triomphé du monde, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si vous voulez, on va prier quelques instants avant d'aller plus loin. Notre Père, on veut te remercier encore pour toutes les Perle qu'il y a dans ta parole, Seigneur, par la Bible, Seigneur, tu nous dévoiles ton cœur, tu nous dévoiles comment on doit t'aimer, tu nous dévoiles comment tu nous aimes. Et Seigneur, c'est merveilleux de lire cela, on le lit un peu comme le jeune homme qui lit les lettres que sa blonde lui a envoyées. Et notre Père, merci de nous réconforter, merci de nous situer avec ta parole, Seigneur, parce que sans elle, on serait vraiment perdu, on pourrait se tromper par de vaines philosophies. Mais Seigneur, tu nous ramènes toujours à la vérité. Et tu nous dis de prêcher l'amour avec la vérité. Et les deux ensemble, Seigneur, vont de pair. Notre Dieu, on te prie que ce matin, tu puisses m'aider à apporter droitement, clairement, Seigneur, ton message. Et fait que tous ceux qui sont ici, incluant moi, on puisse être touchés, Seigneur, par la lecture de la parole et par ton esprit qui va travailler dans nos vies. Amen. Donc, le premier et le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » On trouve ce commandement-là de Jésus dans Marc, chapitre 12, verset 30. Mais comment savoir si on aime vraiment Dieu de tout notre cœur? C'est facile à dire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le mot « aimer » est employé à toutes sortes de sauces, même à la sauce spaghetti. Donc, il faut regarder ici dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui va être des signes ou des preuves qui vont montrer qu'on est enfant de Dieu, pas enfant de Dieu, mais qu'on aime Dieu. Et dans le texte ici, il y a trois choses, trois signes. Le premier, c'est que si j'aime Dieu, je vais garder ses commandements. Regardons au verset 3 du chapitre 5. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce que le fait que j'obéis à la loi de Dieu, que j'obéis à ses commandements, automatiquement, ça veut dire que je l'aime? Est-ce que c'est ça qui est dit ici? Je ne crois pas. C'est un peu le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que si j'aime, je vais obéir. Non pas donc, j'obéis donc j'aime, ou j'aime donc j'obéis. Mais c'est ça, l'obéissance vient de l'amour. Regardons verset 2, où l'amour vient en premier. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, dans l'ordre, c'est que nous aimons Dieu, et il découle de là, nous pratiquons ses commandements. Dans la parole vivante, le verset 3, le début, ça se lit comme suit. « Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. » Donc, ça va découler de notre amour pour Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais comment savoir si j'obéis par amour? C'est que si j'obéis par amour, ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas astreignant. Regardons au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, si ces commandements ne sont pas pénibles pour nous, si on le fait avec amour, ça ne sera pas pénible. Mais si c'est dur, si c'est forcé, ce ne sera pas vraiment avec amour. Monsieur Alexander Strauch, dans son livre « Diriger avec amour », dit ceci. Il commente le verset, là, Jean 14, verset 15. « Dans ce verset, Jésus parle de l'obéissance volontaire du cœur et non d'une obéissance forcée et sans joie. » Donc, c'est volontaire. « L'amour nous incite à obéir et le Saint-Esprit nous donne la force d'aimer. » Donc, ça vient, c'est vraiment de l'intérieur que ça vient. Et la Bible nous dit que ce n'est pas pénible lorsqu'on aime. Et comment ça se fait que c'est pas pénible? On continue la lecture. La Bible s'explique d'elle-même. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, obéir à Dieu, ce n'est pas pénible si nous sommes nés de nouveau vraiment. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si je demande aux non-chrétiens d'obéir au commandement de Dieu, ça va être pénible. Attends, c'est ça, il y a des gens qui m'ont... Comme ça. Bonjour, Daniel. Il y a du monde que je voyais de travers. Donc, pour un non-croyant, obéir au commandement, c'est insupportable parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Souvent, lorsqu'on va... La réaction des gens, lorsqu'ils nous voient et qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il y a de différence entre nous, ils trouvent qu'on a une vie plate. Si on ne va pas dans un bar, les relations sexuelles, c'est dans le mariage, c'est pas avant le mariage. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, on ne se venge pas, on est bon et tout ça. Pour un non-chrétien, quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui, c'est insupportable, c'est pas attirant du tout. Et pour lui, pour un non-chrétien, obéir à Dieu, c'est l'absence de plaisir. C'est complètement négatif. Et j'étais comme ça. Okay? C'était négatif pour moi avant d'être chrétien, d'obéir à Dieu. En devenant chrétien, on le fait plus par amour. Jésus a dit, « Mon joug est doux, mon fardeau léger. » Dans le contexte, c'était que les Juifs avaient plein de règles qu'ils avaient rajoutées à la loi de Dieu. C'était vraiment un fardeau pesant qu'ils mettaient sur les épaules des gens de l'époque. Et Jésus leur disait, par contre, « Moi, mon joug est doux, mon fardeau léger. » Donc, obéir à Dieu, c'est léger, c'est doux, c'est pas difficile. Mais lorsqu'on dit qu'un fardeau est léger, ça veut-tu dire, hop, c'est encore un fardeau? C'est un fardeau, c'est léger, c'est pas trop pesant, là. C'est pas si pire. Tu sais, obéir à Dieu, c'est pas si pire que ça, c'est pas trop dur. Non, c'est pas ça. Parce qu'obéir à Dieu, c'est pas un fardeau, c'est même agréable. Et on voit dans la parole de Dieu que ses commandements sont désirables. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, je vais tellement l'admirer, le désirer, vouloir lui plaire, que pour moi, ça va être un plaisir et un délice de faire sa volonté. Vous aimez votre épouse, est-ce que ça, vous aimez ça, lui faire plaisir? Êtes-vous content quand vous lui faites plaisir? C'est un délice. On lit dans Psaume 40, verset 8, « Je prends plaisir à ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ta loi est au fond de mon cœur. Je prends plaisir à faire ta volonté. Pour David, ici, c'est un plaisir. On raconte l'histoire d'une femme qui était mariée à quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Comment ça s'était passé, comment ça s'était arrangé, on ne sait pas, mais elle ne l'aimait pas. Et lui, le mari, il était vraiment exigeant. Il lui disait, tu te lèves à 5 heures le matin, tu prépares mon déjeuner pour qu'à 6 heures, quand elle me lève, c'est prêt. Moi, je ne meurs plus pas 6 heures et 5, à 6 heures, c'est prêt. Et il lui avait fait plein de listes de choses, en particulier une liste pleine de choses à faire, de règles et de choses à respecter. Et la femme était vraiment, vivait une vie misérable, elle trouvait ça difficile. La vie, c'était dur pour elle. Puis un jour, l'homme est mort. L'histoire ne dit pas si elle a empoisonné, c'est pas écrit dans le livre. Après quelques années de deuil, elle s'est remariée cette fois-ci à un homme qu'elle aimait. Son mari l'aimait et elle l'aimait beaucoup. Et elle était vraiment heureuse. Et tout ce qu'elle faisait pour son mari, ce n'était pas un fardeau. Un jour, en faisant du ménage dans ses vieilles paperasses, elle a trouvé la vieille liste que son ancien mari lui avait faite. Elle a commencé à lire ça. Debout à 5 heures, déjeuner à 6 heures, de la fin, de la fin. Ouais. Puis là, elle s'est aperçue que la majorité de ce qu'il y avait dans cette liste-là, elle le faisait avec son nouveau mari, naturellement. Sans que. Puis lui, il l'avait pas obligé. Mais il y a des choses qu'elle aimait faire pour le faire plaisir. Ça veut dire que mesdames, demain à 5 heures. Ça s'en vient. C'est un exemple. C'est un exemple pour nous faire comprendre que lorsqu'on fait les choses avec amour, c'est facile parce qu'on fait plaisir à l'autre puis ça vient tout seul. Laissez votre doigt dans Jean, on va aller dans le psaume 119. Deux versets que j'aimerais qu'on lise dans le psaume 119, qui nous parle encore de la loi de Dieu et des délices qu'elles font. Psaume 119, le verset 24. Donc, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Tes préceptes font mes délices. Donc, les préceptes, les lois que Dieu avait données, le psalmiste dit, ça fait mes délices. Regardons encore dans le psaume 119, le verset 35. Verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Et la Bible Colombe dit, car j'y prends plaisir. David ici aimait les lois, la loi de Dieu, pas parce que c'était un gars qui était légaliste, parce que c'était un homme qui avait vraiment beaucoup d'amour dans son cœur, et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et pour lui, d'obéir à ce que Dieu lui donnait, c'était un plaisir. Il savait que ça le protégeait, il savait que Dieu était glorifié, et ça faisait ses délices. Vous avez sans doute connaissez le verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, te donneras ce que ton cœur désire. » Donc, fais, disons, de lui nos délices. On ne tournera pas, mais le psaume 16:11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Abondante joie devant ta face. Lorsqu'on va devant Dieu, plus on est près de Dieu, plus on a la joie. Parce que Dieu est joyeux. Dieu est pas austère, là, puis il est toujours colérique. Dieu est en colère contre le mal. Dieu va juger le mal. Mais Dieu est essentiellement plein d'amour et joyeux. Et quand on s'approche de lui, il nous donne la joie de son esprit. Et il dit, il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Délices éternels, ça veut dire que ça, c'est délicieux pour l'éternité. Quelque chose, ça? Des fois, quand, mettons, quelqu'un mange un chocolat, on dit pour un instant sur la langue et pour la vie sur les hanches. C'est juste un instant. Alors que Dieu, c'est pas un délice qui se compare au chocolat, c'est un délice. Puis des délices éternels, C'est dur à comprendre qu'on va trouver ça délicieux tout le temps et qu'on ne se tannera pas. Et des fois, on pense que, ouf, oui, OK, on va aller au ciel, on échappe au feu de l'enfer. Ouf, ça c'est bon, on ne sera pas en enfer pour l'éternité. On va être au ciel. Bon, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? C'est certainement qu'on va chanter. On va chanter. Puis après, ben, c'est sûr que Dieu a dit qu'on aurait des travail à faire. Il parlait même qu'on aurait le commandement de ville et tout ça. Là. Et Dieu va nous utiliser. Mais Dieu, on va l'admirer et on va faire de sa présence nos délices. Et on n'aura pas assez de toute l'éternité pour découvrir qui il est et tout ce qu'il avait en réserve pour nous. Imaginez-vous sur la terre, on est ici quelques années. Avez-vous réussi à découvrir tout ce qu'il y a sur la terre? On découvre une infime partie de ce que Dieu a créé sur cette terre, la petite boule. Et Dieu qui a créé l'univers, on va être dans sa présence pour l'éternité. Imaginez-vous tout ce qu'il y a à nous montrer, tout ce qu'il y a à nous faire découvrir, tout ce qu'il y a à voir. Ça nous dépasse. Puis je dis ça, je suis limité en le disant. Parce que Dieu a une dimension que je ne connais pas. Et on va se régaler pour l'éternité en sa présence, principalement de lui. De lui. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on commence, qu'on l'aime déjà sur la terre. Une histoire ici, c'est un jeune enfant qui demandait à son père qui était pasteur, « C'est quoi, papa, la différence entre un chérubin et un séraphin? » Parce que ça, dans l'Ancien Testament, les chérubins et les séraphins. Puis le chérubin, son père, ben, il dit ça bien, il n'a pas entré dans trop d'explications parce qu'il y aurait plein de choses sur un chérubin. Ils peuvent être protecteurs. Mais ici, il dit chérubin, ça vient du mot hébreu qui veut dire connaissance. Et séraphin, ça vient du mot qui veut dire brûlant. Au sens que les chérubins ont se réputé pour connaître beaucoup de choses. Et les séraphins sont réputés pour avoir un amour brûlant pour Dieu. Et le petit gars, il dit, quand moi, je vais être au ciel, je vais être un séraphin, parce que je vais avoir un amour brûlant pour Dieu, plus que de connaître toute autre chose. C'est bon, hein? Puis le petit gars, c'est une histoire vraie. Pourquoi est-ce que Dieu désire autant que je l'aime et que j'observe ses commandements? Quand on aime quelqu'un de toutes nos forces, puis Dieu a même donné son Fils pour nous, c'est normal qu'on l'aime en retour. Si on ne l'aime pas, ce que je dis que Dieu est blessé, mais Dieu veut qu'on l'aime, parce qu'il nous aime tellement. La parole de Dieu dit qu'on doit l'aimer, qu'on l'aime en retour. Pas qu'on doit l'aimer, mais ça vient tout seul, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Une des raisons. Une autre raison, c'est que c'est une suite logique de ma nouvelle naissance. Un enfant aime son père, un enfant aime ses parents. Nous sommes des enfants de Dieu. Serait-il normal qu'on l'aime, Dieu? Hein? Si on ne l'aime pas, ce n'est pas normal. Et aussi, l'aimer de tout notre cœur, c'est la meilleure façon de le glorifier. Et lui obéir, c'est pour le glorifier aussi. Je vous lis un verset ici dans Job. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Ici, on voit que l'Éternel était fier de Job. « As-tu vu mon serviteur Job? » Il dit, « Il n'y en a pas d'autre comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Donc, il m'aime, il me craint, il me respecte. Il s'écarte du mal et il m'obéit à mes commandements. » As-tu vu mon serviteur Job? Donc, Dieu se glorifie ici de Job. As-tu vu qu'est-ce que j'ai pu faire avec lui? Est-ce que Dieu peut faire la même chose avec nous? As-tu vu mon serviteur? Mettez votre nom. Dieu veut se glorifier vis-à-vis les anges, vis-à-vis les autorités célestes, vis-à-vis les dominations même, les esprits méchants, et leur dire, avez-vous vu la grande compassion que j'ai eue pour aller les chercher, les sauver? Avez-vous vu combien il m'aime maintenant? Avez-vous vu comment le sacrifice, ça valait la peine que j'aille envoyer mon fils mourir pour eux et que ça fonctionne? Regardez comment mes enfants, ils m'aiment. Dieu est fier de cela. Dieu est fier de montrer qu'est-ce qu'il était capable, lui, de faire avec les êtres pécheurs comme nous qui méritions l'enfer. Et on peut le louer pour l'éternité, pour vraiment sa grande compassion, sa grâce. Quand on parle des fois de la louange de sa grâce, de le remercier, de louer cette grâce qu'il y a eu là pour nous. Et Dieu se glorifie à travers nous lorsqu'on l'aime et qu'on lui obéit. Et Dieu se glorifie aussi devant les hommes. Lorsqu'on parle qu'on est chrétien, qu'on est de Dieu, Ben, si on vit comme des chrétiens et qu'il y a de l'amour et qu'on aime Dieu, ben, Dieu est honoré, Dieu est glorifié. Dans la parole vivante, le verset Éphésiens 1:12, ça va comme suit. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire. Célébrer sa gloire. Destinés à vivre. On a été créés pour ça. On a été créés pour célébrer la gloire de Dieu, pour que Dieu paraisse plus glorieux. Je le lis au complet. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres de la création à placer notre espérance en Christ. Depuis longtemps, nous, les Juifs, nous avons attendu ardemment notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. La louange de sa gloire, c'est qu'il est... Il va paraître plus grand, il va être loué aux yeux des hommes et de tous les êtres célestes à cause de ce qu'il a fait pour nous. On va célébrer sa gloire. Donc, si on l'aime, on lui obéit et il est glorifié. Le glorifier, c'est être émerveillé aussi par sa grandeur, faire son éloge, le vanter, être sans cesse impressionné, l'admirer. Vous voyez, c'est tous des synonymes de louer, mais quand on les prend, on dit, oups, ça, être impressionné de sa personne, être en admiration devant lui, devant ce qu'il a fait, devant ce qu'il est. Et Jésus, en citant un passage de l'Ancien Testament, a dit, « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle. » Et il y avait des enfants qui suivaient Jésus, qui criaient « Gloire à Dieu, il louait Dieu. » Et je vais vous montrer un petit vidéo. Dans lequel on voit un enfant de 2 ans qui loue Dieu. Et c'est en anglais, sauf que c'est sous-titré en anglais, c'est écrit, facile à comprendre. Et ceux qui auraient la misère avec l'anglais, c'est la prière du Notre Père qu'on retrouve dans Matthieu 6, versets 9 à 13. C'est le texte, mais sauf que c'est en anglais. Et un enfant de 2 ans qui chante au gloire du Seigneur. Si tu veux y aller, Michael. Donc, c'est vraiment touchant de voir comment Dieu utilise des enfants, la petite fille, elle a 2 ans, pour se glorifier. Donc, à la fin, c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire. Amen. Et la finale était bonne, elle est vraie. Donc, nous avons vu que un signe de notre amour pour Dieu, c'est d'obéir ses commandements par amour. Deuxième signe, c'est aimer ses enfants. Si j'aime Dieu, je vais aimer ses enfants. Revenons dans Jean, ceux qui ont encore le doigt là. Le chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 1, ça dit, Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu. Donc, ça veut dire, quiconque aime Dieu aime aussi celui qui est né de lui. C'est ce que ça veut dire, là, celui qui l'a engendré. Nous lisons aussi au chapitre 4, si vous voulez monter d'un chapitre, verset 7, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, l'amour pour les autres, c'est un signe de notre amour pour Dieu. On va regarder aussi, un petit peu plus loin, on continue le verset qu'on a eu tout à l'heure, dans le verset 20, Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, ça va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Si je ne peux pas aimer mon frère, ma sœur, qui sont visibles, comment est-ce que je peux prétendre que j'aime Dieu qui est invisible? C'est un test ici. Parce qu'on peut dire, moi je l'aime Dieu, mais lui, là, il ne peut pas le sentir. Puis lui, je ne suis pas capable. Puis lui demander pardon, je ne suis pas capable non plus. Si on aime nos frères et nos sœurs, c'est un signe qu'on aime Dieu. Si on est capable de plier sur notre orgueil, si on est capable de demander pardon, si on est capable de désirer le bien de l'autre. Et lorsque j'aime mes frères et mes sœurs, c'est un signe que j'aime Dieu. Si j'aime mon frère, est-ce que je prends plaisir à parler en mal de lui ou d'elle? Est-ce que ça me fait plaisir lorsque j'entends un autre qui parle en mal de cette personne-là? Une citation ici d'un monsieur, Scoggi, qui est cité dans le livre « Dirigé avec amour » de monsieur Strout. Il dit « Ce qui réjouit l'homme est un test de son caractère. » Qu'est-ce qui nous fait plaisir, là? Ça nous montre qu'est-ce qu'on a dedans. Donc, « Ce qui réjouit l'homme est un test de son caractère. » Se réjouir du triomphe du mal ou du malheur des autres implique une grande dégradation morale. Ceux qui sont plus vieux, vous avez peut-être déjà entendu la chanson « Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou ». Ça disait « Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je ne suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou ». Donc, on chantait ça quand on était jeune. Puis là, quand j'ai pensé à ça, c'est « Quel plaisir il y a ». Des fois, c'est drôle de voir un autre tomber, là. Mais se casser le cou, ça, c'est une autre affaire. OK? Le plaisir. Une autre citation de M. Strauss dans son livre « Dirigé avec amour », il dit « Les gens aimants n'éprouvent pas de plaisir dans des sentiments de supériorité à l'égard des autres. Ils ne se délectent pas des commérages, ils ne se réjouissent pas d'apprendre les péchés sordides et la disparition de leaders chrétiens qu'ils n'apprécient pas. » Donc, regardons qu'est-ce qui nous réjouit. Qu'est-ce qui nous fait fort en dedans, là? Est-ce que ce sont les succès des autres qui nous réjouissent ou c'est lorsque ça ne va pas bien? Sommes-nous jaloux quand un autre a du succès? Est-ce qu'on se réjouit quand il arrive un malheur? Une petite anecdote ici qui est un petit peu rapport là, sur se réjouir du bonheur des autres. Ce n'était pas un chrétien, c'était avec mon cousin il y a plusieurs années de cela, avant, quand j'étais en Gaspésie. Lui, il travaillait pour le service des parcs. Puis, dans l'été, il avait réussi, parce qu'il travaillait là, à avoir un petit permis spécial pour aller pêcher à un lac où personne n'était allé. C'était pas ouvert, parce que le lac était tout petit, donc c'était pas ouvert au public. Et il avait fait des belles pêches, des petites truites, mais il y en avait beaucoup. Et moi, cet été-là, j'étais à l'extérieur. Quand je suis arrivé à la fin de l'été, il me comptait sa pêche. Blablabla. Puis là, moi, j'aimais la pêche. Fait que, j'étais... Au début, j'étais jaloux. Puis là, moi j'étais jeune chrétien, une année, je me suis dit, ou peut-être probablement Seigneur qui me l'a dit, pourquoi tu ne te réjouirais pas avec lui parce qu'il te partage sa joie? Pourquoi tu serais jaloux, il te partage ça? Et là, j'ai commencé à dire, je vais me réjouir de lui parce qu'il est comme, vu qu'il est heureux, moi j'étais jaloux, mais vu qu'il était heureux, ben, je vais partager sa joie au lieu d'être jaloux de ce qu'il y a eu. Et ça a changé mon attitude. Puis là, on a parlé, puis il réalisait vraiment que j'étais content pour lui. Et devinez quoi? La semaine d'après, il m'a invité à aller avec lui à son lac. Et il y avait de la... Elle n'était pas grosse, mais il y en avait beaucoup. L'eau était claire, là, on voyait les truites qui venaient. Là. C'était vraiment beau. Tout ça pour vous dire, faisons attention à notre tendance. Ça ne veut pas dire que vous allez être récompensé à chaque fois. Cette fois-là, j'ai été récompensé. Donc, maintenant, on va voir la troisième preuve qu'on aime Dieu. La première, c'est qu'on obéit avec amour. C'est pas difficile. Deuxième, c'est qu'on aime ses enfants. Troisième preuve de notre amour, c'est que je vais triompher du monde. Regardons le verset 3. Donc, dans 1 Jean 5, 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, si on l'a vu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » On va avoir la victoire sur le monde si on aime Dieu. Et on a vu aussi que ce n'était pas pénible. Pourquoi est-ce que je vais triompher du monde? C'est que mon attrait pour Dieu va être plus grand que mon attrait pour le monde. Pourquoi? On voit ici, parce que je suis né de nouveau. On voit, hein? Parce que, verset 4, par tout ce qui est né de nouveau, triomphe du monde. Si je suis né de nouveau en Jésus-Christ, je vais avoir la victoire sur le monde parce que Jésus est plus grand pour moi que le monde. Et lorsqu'on voit triompher du monde, ça implique un combat. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, il y a une lutte. Et si je ne triomphe pas, qu'est-ce qui arrive? C'est qui triomphe? C'est le monde. C'est un ou l'autre. John Piper, dans un de ses derniers messages, disait, il commentait ce verset-là, il disait, « Ceci doit signifier qu'il y a des forces dans le monde qui travaillent pour qu'on n'aime pas Dieu et qu'on ne s'aime pas les uns les autres. Mais par la nouvelle naissance, les forces ont été vaincues. » Donc, la nouvelle naissance nous permet de triompher sur le monde. Un des éléments. On va en voir un autre tout à l'heure. Mais c'est quoi le monde? Toujours dans Jean, reculons au verset 2, au chapitre 2. Chapitre 2, versets 15 et 16. Donc, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc, c'est un ou l'autre, on aime le monde ou on aime Dieu. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Bon, et on pourrait faire un message sur chacun de ces trois points-là, mais vite, là, la convoitise de la chair, c'est notre tendance naturelle à aller vers le mal naturel. La convoitise des yeux, c'est la séduction par tout ce qu'on voit, tout ce qui nous attire. Satan utilise beaucoup la convoitise des yeux pour stimuler chez nous des mauvais désirs et nous faire tomber. Et vous savez que avec la communication telle qu'elle est aujourd'hui, on est vraiment sollicité continuellement par toutes sortes de choses pour stimuler des illusions de bonheur, mais qui sont convoitises des yeux et qui sont péchés. Aussi, la dernière, l'orgueil de la vie, c'est le désir d'être quelqu'un, d'éblouir les autres par mon importance, par mes biens. Moi, je suis quelqu'un. Notre arrogance ou une vaine gloire relativement à mon rang social, ma situation, ma richesse, ma notoriété, l'orgueil de la vie. Donc, tout ça, ça vient du monde. Et c'est contraire à l'amour de Dieu. Est-ce que je peux aimer Dieu et le monde? La parole de Dieu le dit non. Tu aimes un ou l'autre. Parce que mon amour pour Dieu remplace mon amour pour le monde. Et le contraire est vrai. Si j'aime le monde, je ne peux pas aimer Dieu en même temps, c'est un ou l'autre. Jésus a dit, vous ne pouvez aimer Mammon, qui est le Dieu de l'argent, à titre d'exemple, et Dieu. Avant ma conversion, moi, je voulais avoir les deux. Je voulais avoir Dieu et je voulais avoir le monde. Je voulais être sauvé parce que j'avais peur de ce que ce serait pour l'éternité. Je voulais avoir une assurance d'aller au ciel. Mais je n'étais pas prêt à abandonner ma vie de plaisir, entre guillemets, que j'avais avec mes chums et de beuverie et tout ça. Mais plus j'avançais, plus le Seigneur m'a montré que j'avais un choix à faire. C'était tout ou rien. Donc, c'était lui que je voulais accepter. Et moi, j'aurais voulu dire, « Oui, Seigneur, tu me donnes le salut, après ça, je vis comme je veux. » Et on pourrait avoir des fois cette tendance-là. Quelqu'un dit, « Oui, moi, j'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé, j'ai mon ticket pour le ciel. Merci, Jésus. Et maintenant, je vis comme je veux, puis on se revoit à ton retour. Quand tu reviens, on se revoit. En attendant, je vis ma vie comme je pense, selon ma sagesse humaine, mais ça ne fonctionne pas. Jésus a vaincu le monde pour me permettre de vaincre le monde. Et ici, ça dit que la nouvelle naissance nous donne la victoire sur le monde et nous permet d'aimer Dieu. Dans Psaume 97, c'est écrit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Pour montrer que le salut transforme et coupe avec le monde, c'est quand au début de ma vie chrétienne, quelqu'un me donnait un exemple pour montrer notre transformation. Il disait, mettons que tu es sur une ferme, puis tu as un cochon. Pas les fermes aujourd'hui, là, où ils sont toutes dans les cabanes, mais une qui est à l'extérieur. T'sais. Lui, il parlait en anglais, il disait un cochon. Il dit, vous prenez le cochon, puis vous voulez le transformer qu'il soit beau. Fait que vous lavez le cochon, vous mettez dans le bain, vous le lavez, vous le parfumez, il sent mort, vous mettez une boucle à son cou, une belle boucle rouge, et vous le remettez le cochon dehors. Qu'est-ce qu'il va faire le cochon? Le premier trou de boue qu'il va trouver, il va y aller. Parce que dans sa nature, c'est ça qui l'intéresse. Et supposément, si c'était faisable, c'est pas faisable, si c'était faisable de prendre le cerveau et la nature d'un agneau, l'enlever, la transplanter dans le cochon, et encore l'extérieur du cochon, et encore là, on lave, on lui met de la boue et tout ça, à ce moment-là, le cochon n'ira pas dans la boue, parce que sa nature est changée. Et c'est ça qu'on nous expliquait, on a la victoire sur le monde à cause que notre nature est changée, nous sommes différents. L'extérieur est pareil. On ne ressemble pas des cochons, là, mais... Bon. L'extérieur n'a pas changé, mais l'intérieur est changé, ça ne paraît pas, mais ça va paraître par notre façon de vivre, qu'on a une nouvelle nature en dedans de nous. John Stott, dans son commentaire sur l'épître de Jean, dit « Le charme de l'ancienne vie est brisé, la fascination du monde a perdu son attrait. » Il ajoute « La nouvelle naissance a pour double résultat de nous détacher du monde et de nous amener à Dieu. » Ce n'est pas juste de nous couper du monde. Moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Non. La nouvelle naissance nous amène à Dieu avec tout ce qu'il nous offre. Nous avons vu que la nouvelle naissance nous permet de triompher du monde. Autre chose qui est ajoutée au verset 4, regardons. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ça on l'a vu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je viens de vous dire que c'est la nouvelle naissance qui nous permet de triompher du monde. Mais lui, il vient d'ajouter que c'est notre foi. Mais il y a les deux aussi. La nouvelle naissance vient en premier. Et il y a la foi. Parce que je peux dire, je suis né de nouveau par la foi. Ensuite, je ne vis pas pour le Seigneur. Puis, dans le fond, je ne peux pas dire que je vais vraiment avoir la victoire dans ma vie chrétienne. Et ici, il nous parle de la foi. Jésus ajoute que la foi nous fait triompher du monde. Quelle raison la foi nous fait triompher du monde? Parce que ça nous permet de voir Jésus-Christ tel qu'il est. La foi, ça vient éclairer nos yeux spirituels. Par la foi, on voit Jésus tel qu'il est vraiment. Jésus-Christ devient plus important, plus attrayant que le monde, plus intéressant que tout ce que le monde peut nous offrir. Par la foi en Jésus-Christ, on voit sa valeur suprême au-dessus de toute chose. La foi nous ouvre les yeux. On voit Jésus-Christ tel qu'il est, tout ce qu'il a fait. On voit son œuvre, on voit son amour pour nous. Et en voyant tout ça, tout le reste devient fade. Tout le reste devient sans attrait. Vous connaissez le verset dans l'Apocalypse, quand Jésus écrit à l'église de Laodicée, à la fin, il dit, « Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Un collier, c'est un médicament qui se vendait à l'époque à Laodicée pour guérir les yeux. Et pourquoi Jésus leur disait ça? Parce que cette église-là disait, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Alors Jésus leur disait, non, t'es aveugle, t'es nu et tu ne le sais pas. Est-ce que ces chrétiens-là avaient des yeux pour voir? Oui, ils avaient des yeux physiques. Est-ce qu'ils avaient des yeux spirituels? Oui, un collier pour oindre tes yeux. Donc, les chrétiens de Laodicée, ils avaient des yeux au niveau spirituel, mais ils ne voyaient pas avec... Leur vision avait déjà été bien meilleure au début de l'Église, 30 ans avant. Maintenant, ils respectaient. C'était une Église qui faisait vraiment des belles choses de l'extérieur, mais le cœur n'y était pas. Parce qu'ils n'avaient pas une vision éclairée de ce qu'était Jésus-Christ et de leurs problèmes. Donc, il était né de nouveau, il avait une vision spirituelle, mais qui était déformée, qui n'était pas bonne. Et ça faisait qu'il se croyait correct alors qu'il ne l'était pas. Et ça nous arrive, avec la nouvelle naissance, Dieu nous donne un discernement, mais avec le temps, ça peut arriver que ça diminue. Et on a besoin de reconsécration, parce qu'avec le temps, on a tendance à moins bien voir spirituellement. Et Jésus n'a pas changé, c'est simplement notre façon de le voir qui a changé. Un petit exemple ici. Quand nos enfants étaient plus jeunes, on avait dans le cour arrière de chez nous un module de jeu ou un trapèze. Puis ma fille Myriam était bonne là-dedans, les pirouettes, puis elle marchait sur les mains. Puis ma mère était complètement à l'envers. Puis elle me crie, « Papa, quoi? » Elle dit, « Papa, t'es à l'envers. » Comprenez que c'était pas moi qui étais à l'envers. Et c'est un peu la même chose avec le Seigneur. On le voit avec la façon dont on est. C'est nous, bien souvent, qu'on est à l'envers, qu'on est croche. Pas lui. Lui, ne change pas. Donc, c'est nous qu'on peut être à l'envers. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il avait écrit aux Éphésiens, il leur avait dit, « Je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Nos yeux spirituels ont besoin d'être éclairés. Pourquoi Paul priait? Il disait pour que vous compreniez la grandeur de sa puissance, la richesse de l'héritage qu'il y a en réserve pour vous. Et il y avait plein d'autres choses qu'on doit réaliser. Et si on n'est pas conscient des réalités spirituelles, de la valeur de ces réalités-là, on va être attiré par qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qui nous fait un plaisir immédiat, qu'est-ce que le monde nous offre. Donc, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes près du Seigneur, nous triomphons du monde à cause de la foi qui en découle, que Jésus est plus grand, plus important. Et ça nous permet d'obéir avec amour, et c'est pas pénible. Et tout se tient. Donc, dans l'ordre, c'est la nouvelle naissance, la foi, ensuite l'amour. Avez-vous la difficulté à aimer Dieu ou à aimer un frère, une sœur ou plusieurs, comme Dieu le demande? Peut-être c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance, vous ne vous êtes pas repenti de votre condition de pécheur devant Dieu, vous n'avez pas demandé qu'il vous sauve par le sang de Jésus-Christ. Peut-être aussi que vous êtes né de nouveau, mais que vous avez l'impression que le monde triomphe sur vous plus qu'autre chose et que vous n'êtes pas capable d'aimer Dieu comme vous devriez. Probablement, c'est parce que vous ne réalisez pas la grandeur de Jésus-Christ, sa grandeur suprême, sa valeur suprême. Et qu'est-ce qu'on a besoin dans ce temps-là? C'est de passer du temps avec lui pour le connaître davantage. On ne pourra pas le connaître beaucoup si on ne passe pas de temps avec lui. Il y a un verset dans Apocalypse 3:20 qu'on utilise beaucoup pour les non-chrétiens lorsqu'on fait un appel. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et dans le contexte, Jésus s'adressait à des chrétiens parce qu'il s'adressait à une église. Il dit, « Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, souper, c'est la communication. Donc, Jésus veut vraiment entrer en communication avec nous. Et comme chrétien, des fois, je me demande, voyons, ça veut-tu dire qu'on l'aurait mis dehors? Il est à la porte, puis il frappe. Je ne crois pas que ça veut dire qu'on ait perdu le salut, qu'on peut le prendre puis le reprendre, mais ça peut arriver comme chrétien que Jésus n'a pas grand place dans notre vie. Pas grand place. Puis il frappe. Il ne s'impose pas, mais il frappe toujours et toujours là. Et peut-être que Jésus frappe à la porte de votre cœur ce matin. Je sais qu'il frappe souvent à la porte du mien. Yvan, donne-moi plus de place. Donne-moi plus de place. J'en ai plus besoin. Enlève cette affaire-là qui prend trop de place dans ta vie pour m'en donner. C'est pas toujours facile de passer du temps seul avec lui. D'après moi, c'est la seule façon d'avoir la victoire, d'avoir une communion avec Jésus-Christ, passer du temps avec lui, même si c'est pas toujours facile et notre attention est toujours sollicitée par plein d'autres choses. Mais la communion avec Dieu, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un évangéliste des années 1700 aux États-Unis, Jonathan Edwards, a été utilisé puissamment comme prédicateur. Et on pourrait penser que cet homme-là, il était trop occupé pour prier ou trop occupé pour avoir une relation avec Dieu parce que il conduisait des foules au Seigneur, c'était vraiment actif, il y avait beaucoup de choses organisées. Et j'ai été surpris de voir à quel point cet homme-là mettait en priorité sa relation avec Dieu. Et il y a eu un réveil, des milliers de personnes de converties. Et j'ai ici un petit texte que je vais vous lire sur comment, qui me permet de voir un petit peu quelle était sa vie de prière. Il disait, « Mon âme avait une soif ardente de Dieu, du Christ et d'une sainteté accrue. Après avoir épanché devant Dieu, après l'avoir épanché devant Dieu, j'avais le sentiment que mon cœur était plein à craquer. À longueur d'année, je passais la majeure partie de mon temps à méditer sur les choses divines. La majeure partie de mon temps. Quelque chose, ça, hein? Je me promenais souvent seul dans le bois. » Ça, ma femme me dit, j'aime ça pour moi, parce que j'aime bien le bois. « Je me promenais souvent seul dans le bois. Je recherchais des endroits solitaires pour méditer tranquillement, prier et m'entretenir avec Dieu. C'était ma manière personnelle d'exprimer ma louange à Dieu. Partout où je me trouvais, je me mettais à prier spontanément. La prière me paraissait naturelle. Elle était la respiration de mon cœur. Par elle s'échappaient ses soupirs brûlants. » Donc, cet homme-là ne pouvait pas faire autrement que de prier. Tellement c'était intense, tellement il y avait un fardeau pour la prière. Tellement pour lui, c'était un besoin. Prier pour lui, c'était comme manger, parce qu'il avait une soif, il avait une faim de prier. Et Dieu a amené un réveil. Et notre frère Paul a parlé la semaine dernière d'un réveil. Et le réveil commence comme ça, que Dieu change les cœurs, nous donne des fardeaux pour prier. Il nous montre des choses qu'on doit enlever dans notre vie, des choses qu'on doit confesser, des relations qu'on doit rétablir. Parce que Dieu ne se manifeste pas si on a notre vie tout croche, qu'on n'ait pas une relation avec lui. Dieu attend que ce soit rétabli, la communion soit rétablie, que les ponts soient rétablis avec les frères et sœurs, que ça aille bien. Et là, Dieu va agir. Dieu peut agir. C'est la façon qu'il fonctionne. Et souvent, je pense, bon, là, je suis chrétien, j'ai réglé plein de choses dans ma vie, telle affaire. C'est comme si ça n'avance plus. Je me dis, bon, peut-être c'est ça, mais chrétien, je n'irai pas plus loin que ça. Mais le Seigneur me montre que dans notre vie, dans ma vie chrétienne, je dois occasionnellement me reconsacrer. Et chaque fois que je me reconsacre à lui, c'est comme un baume sur mon âme, sur ma vie. Et on a besoin de se reconsacrer, de revenir à lui. Et c'est pas, bon, je suis sauvé, bon, puis c'est comme ça, puis quand Dieu va revenir, oups, là, je monte en haut. C'est qu'on monte constamment dans notre connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. On raconte l'histoire d'une femme âgée, et je termine avec ça, qui passait la grande majorité de son temps dans la solitude, comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup de personnes âgées. Et quelqu'un lui disait, « Qu'est-ce que vous faites de votre temps, madame? » Ben, elle dit, « Je prends mon livre de cantiques, puis là, je chante des cantiques, des hymnes à Dieu. » Elle dit, quand je suis fatigué de chanter, j'arrête de chanter, je ferme mon cantique. Là, j'ouvre la Bible, puis là, je lis la Bible, puis là, je laisse Dieu me parler, Dieu m'enseigner. Puis quand je suis fatigué de chanter, je suis fatigué de lire, elle dit, je reste assis tout simplement tranquille, puis je laisse le Seigneur m'aimer. L'amour de Dieu coulait dans son cœur. Donc, c'est sûr qu'elle laissait le Seigneur l'aimer, puis elle l'aimait en retour. Donc, c'était l'intensité de sa relation. Donc, je vous invite à prendre plus de temps à mon tête-à-tête avec le Seigneur. Je m'invite, moi aussi. Les musiciens peuvent approcher aussi, si vous voulez. Je m'invite, moi aussi, à le faire, parce que c'est pas toujours facile et je dois, des fois, me faire violence pour passer du temps avec lui. Mais je vous invite à laisser Dieu déverser en vous son amour, sa puissance, qui éclaire vos yeux, nos yeux, mes yeux. Je vous invite à apprendre à l'aimer de tout votre cœur. Si vous voulez, on va terminer par la prière. Notre Dieu, nous te supplions de mettre dans nos cœurs une soif de toi, une soif de te connaître. Fais que ce soit un besoin pour nous, notre Dieu, d'être plus près de toi, de savoir davantage qui tu es. Seigneur, crée en nous cette soif. Notre Dieu, on te prie aussi d'ouvrir les écluses des cieux afin de répandre ton esprit en abondance dans nos cœurs, dans le cœur des non-chrétiens pour qu'ils soient sauvés. Seigneur, sauve. Notre Dieu, on te prie de nous montrer toute défaillance, tout péché dans nos vies, toute chose laide en nous qui te déplaît, qui nous empêche de t'aimer, qui t'empêche de nous vraiment donner ton esprit avec abondance. Seigneur, puissions-nous être remplis de cet esprit. Seigneur, on veut avoir des vies qui te glorifient, des comportements qui te glorifient. Et Seigneur, on veut t'aimer de tout notre cœur avec joie. Et on prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.